Anna, elle gossipe, mais une fois que t'es que tu bah, la connais, genre.
Une fois que la pique est close.
J'ai pas trop de gossip sur moi, genre.
T'as des gossips genre sur des célébrités, genre des personnes qui connaissent des personnes.
Ouais, j'ai un scoop pour vous. Macron, il est gay.
Le fameux scoop que tout le monde pense détenir.
Ça, je savais. De source sûre.
Je sais pas.
Ouais, non.
J'ai l'impression qu'il se passe pas des trucs de fou dans ma vie. Enfin, même genre, niveau relation amoureuse et tout, genre, je suis en couple depuis tard l'époque. Du coup, de ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose.
C'est là que je pose une question de psychanalyste. Est-ce que tu as l'impression d'être moins intéressante quand tu n'as pas de gossip?
Bah, en vrai, bonne question. Hein.
Non, mais c'est vrai.
Ça peut être. On peut y réfléchir.
Est-ce qu'avec ta meuf, il n'y a pas quelqu'un que vous prenez comme modèle pour vous foutre de sa gueule? Bah oui, c'est... moi j'aurais tendance à croire ça.
Et non, ouais, gossip.
Non, je suis avec un homme.
Quelle horreur.
C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement. Le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime dire travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière, et je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Après, amour, toujours, il y a la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Piole.
Écoutez Radio Piome sur Radio Campus Paris 93.9 FM et aujourd'hui on va parler du gossip en compagnie de Anna,
bonjour,
de Benjamin,
oui,
et de moi-même, Marianne. Est-ce que donc on pourrait commencer par définir la notion dont on va parler aujourd'hui, Anna?
Oui, le gossip, donc c'est un terme qui vient dans l'ancien anglais, c'est une contraction de God et Sib, donc God Sib, qui veut dire littéralement le proche en Dieu. Et en fait, ça désignait avant les parrains et les marraines d'un enfant, des amis proches de la famille. Et au XVIe siècle notamment, ça renvoyait à une femme qui bavardait, qui avait des conversations un peu oisives et qui prenait plaisir dans ses discussions. Et en français, c'est traduit souvent par potin ou commérage. Et le mot potin, il est intéressant au niveau de l'étymologie, entre guillemets, parce que c'est un mot normand qui veut dire bavarder, et ça désignait les femmes qui bavardaient lors de veillées, qui échangeaient des commérages sur les communautés, sur le village, etc.
D'accord, très intéressant. Donc, ça veut dire que le mot en lui-même a une origine purement sociale, et on pourrait se demander si la définition de gossip, là, ici, ne nous paraît pas un peu peut-être superficielle, j'en sais rien. On a l'impression que le gossip, du coup, c'est quelque chose... un peu, peut-être, je sais pas si c'est quelque chose d'insignifiant, mais en tout cas, c'est un peu difficile en fait de le définir précisément dans la mesure où ça regroupe plein d'interactions sociales.
Il y a aussi une double. Enfin, ça pointe un peu vers deux choses. C'est aussi l'action de parler, d'avoir une conversation légère et tout. Mais le gossip, c'est aussi le contenu qui porte sur des sujets précis en général.
Oui, donc c'est à la fois une pratique. Et une proposition langagière, entre c'est guillemets.
Ça. Oui, mais du coup, dans cette notion de gossip, on est quand même sur quelque chose qui se fait donc en privé. Quelque chose qui... on parlait des veillées, mais donc dans les veillées, dans cette forme un peu de constitution historique et misogyne de ce mot, potin, gossip, y a cette notion de... Elles sont entre elles, au moment où elles parlent, des autres. Et donc ça introduit tout de suite déjà une différenciation entre les parleurs et ceux qui sont visés. Ou tout du moins, peut-être par effet de connexion, il y a quelqu'un du groupe des gossipeurs, on va dire, qui peut faire partie du gossip, mais il va souvent relier à un secret plus général, à quelque chose qui est, ou tout du moins moralement, inaccepté. Et donc le gossip juge, le gossip moralise. et le gossip, par conséquent, coercitive. Puisqu'il y a cette notion de on est à deux, on va parler d'un comportement qu'on trouve peut-être déplacé ou qu'on trouve étonnant, qu'on trouve excitant. Et par conséquent, ensuite, ça va avoir des conséquences, puisque ensuite, de retour à la vie sociale non privée, non dans ce petit groupe de veillée, il va y avoir des comportements qui vont être adoptés. À un moment donné, si quelqu'un, on dit en fait qu'au lieu d'être bien marié à sa femme, il va fréquenter en fait toutes les filles du quartier, tu vas le regarder en mode c'est qui ce charlatan. Si un médecin, on dit qu'en réalité on a vu à travers la fenêtre qui changeait ses pilules pour des trucs de sucre, on va dire ah bah quel charlatan encore une fois. Et donc ça va avoir une conséquence sociale, ça a un impact et ça transforme la vie sociale.
Et en même temps, je repense à l'exemple que tu viens de donner. Par exemple, en parlant du comportement de ce médecin, on pourrait dire que c'est un charlatan, mais le gossip pourrait aussi porter sur le fait qu'on s'inquiète pour lui. On pourrait se dire peut-être qu'il échange, ses pilules contre du sucre parce qu'il n'a pas les moyens de se procurer des bonnes pilules, etc. Et donc ça m'amène à dire en fait que le gossip, ça peut parfois peut-être être bienveillant, c'est pas forcément malveillant dans une certaine mesure, ça peut peut-être même parfois être neutre, mais dans tous les cas c'est toujours une question de jugement. Et il y a toujours une dimension, le but c'est toujours de poser un jugement sur le comportement d'autrui et de spéculer aussi au sujet de ce comportement, puisqu'on se demande en fait, on déduit de certaines actions certaines implications. En fait, c'est un peu le but souvent de se dire pourquoi il agit comme ça, et donc ça peut être seulement dans le but de critiquer ses actions en elles-mêmes et de leur donner une portée négative. Ça peut aussi être dans une logique simplement d'inquiétude, de bienveillance justement.
Je trouve qu'il y a une dynamique qui est intéressante, parce qu'en fait on va se réunir comme tu dis pour parler de quelque chose qui est arrivé avant dans un contexte plus large, qui va du coup revenir dans une discussion plus serrée. Par exemple, nous trois, là, on est en train de discuter d'un truc plus... on est en train de discuter, ou si on gossip, ça passe du public au privé et re-au public, et après, ça va modifier notre perception, ce qu'on va pouvoir penser des autres, comment on va agir et tout.
Ouais, il y a l'idée que le passage par la sphère privée va modifier le comportement public. Ouais.
Mais du coup, il y a cette double question qui est, d'un côté, le cycle du gossip. Le fait que quand tu gossipes sur quelqu'un, en général, le fait que tu viens de gossiper, que tu viens de donner des secrets, c'est un secret en soi. Tu viens de trahir quelque chose, tu es la personne qui détenait l'information, donc c'est un gossip en soi. Cette personne peut aller voir quelqu'un d'autre en disant « elle m'a donné des informations », et donc tu deviens porté de cette nouvelle place sociale. Et plutôt que... quand on parle de jugement, c'est sûr que je vois... Personnellement, j'ai du mal à voir une conversation autrement que par du jugement, et c'est là qu'allait arriver mon autre question, c'est quoi qui différencie réellement le gossip de la conversation, puisque on a le principe peut-être d'une, on va dire d'une discussion qui peut être publique, qui peut être dans le mot discussion. Je peux très bien considérer le fait qu'on a un discours public à un moment donné qui est préécrit, qui est quelque chose que tu vas présenter, une conférence. Par contre, la conversation, qui est, on va dire, plus des principes un peu plus sauvages d'interaction entre plusieurs personnes, souvent se porte par rapport à des choses qui existent dans l'espace social, dans l'espace humain, dans toute le paradigme scientifique du moment, et qui va porter à des informations, mais très, très rarement on parle par pure information. On ne dit pas « il fait beau », mais « il fait beau », c'est déjà quelque chose de valeur, c'est déjà un jugement. Moi, je ne vais pas te dire « il fait 27 degrés aujourd'hui et il est 16h10 ». Parce que c'est pas une conversation qu'on fait.
Justement, je pense que malgré tout, l'hypothèse qu'on pourrait émettre à ce stade de la réflexion, c'est que ce qui distingue le gossip du reste du langage et des discussions, c'est que généralement le gossip se fonde sur des opinions, donc sur des jugements de valeur, en effet. Alors après, on pourrait se dire que tout est jugement de valeur, mais on a quand même tendance, traditionnellement dans la philosophie, à séparer l'opinion de la connaissance, l'opinion de... Ouais, de la connaissance rationnelle, entre guillemets. Et ça peut être amené... souvent, on peut aussi gossiper en se disant que ce qu'on dit rationnel est fondé. Mais puisque ça se fonde en soi sur la spéculation, il y a toujours une dimension instable dans le gossip, j'ai l'impression. Et à la fois, c'est guidé par une recherche de vérité, mais c'est aussi simplement guidé par une recherche, comme tu le dis, de coercition, donc de cohésion. C'est guidé par la volonté, tout simplement, de partager des choses avec les autres. et pas forcément d'établir une vérité, contrairement à par exemple certains débats publics où le but c'est d'établir certains faits, d'établir certaines connaissances en fait. Je pense que c'est ça qui pourrait distinguer le gossip dans une certaine mesure. Enfin, en tout cas, on pourrait se demander si, au final, en effet, peut-être que, à l'inverse, si on considère que même la connaissance est une forme d'opinion, bah, ça voudrait dire que tout est gossip.
À mes yeux, ce n'est pas tant une opinion, puisque je peux avoir une opinion sur les prévisions météorologiques, mais pour autant, les prévisions météorologiques ne sont pas une information privée qui est censée rester privée. Mmh. Alors que là, on est plutôt sur la spéculation, et la spéculation passe très souvent aussi par une opinion, mais on va dire une spéculation opiniâtre sur une information privée qui jusque-là était censée le rester, ou qui encore est censée le rester. Et c'est ça qui va différencier, donc, je pense, une conversation qui porte uniquement sur « Ah, elle a fait ça, ah oui, d'accord, bon, c'est public. Mmh. » Donc, si je te dis « Ah, sur son LinkedIn, il a écrit ça », tu vas faire « Ah oui, mais ça ne sera pas tant privé que ça. » Si je te dis « Sur son LinkedIn, il a écrit ça », alors qu'en réalité, il a fait ça, là, on est plutôt sur une information privée qui est censée rester privée. Et là, pour moi, on tombe dans le gossip.
Et du coup, on peut se demander, oui, en effet, à quel point c'est révélateur d'une certaine opinion sur... Enfin, révélateur de l'opinion que possède la personne qui révèle le gossip sur l'autre personne. Parce qu'en fait, au final, il y a quand même une dimension... moi, je trouve qu'il y a quand même une dimension... oui, c'est le privé rajoute quelque chose et crée le gossip, mais ça reste une opinion dans le sens où dire il y a écrit ça sur LinkedIn, mais en réalité, elle est comme ça, c'est porter un jugement purement personnel sur le comportement de la personne en disant elle ment, en fait, sur qui elle est, quoi.
Parce donc, qu'il y a le fait de porter un jugement, il y a aussi le fait d'avoir une sorte de pouvoir, en fait, sur la personne. Enfin, complètement. Ça fait penser à Foucault et à la société de l'aveu qui dit que le fait de montrer, de se confesser, dire la vérité, c'est une technique de pouvoir. Et du coup, quand on détient une vérité, par exemple, sur un truc, un post LinkedIn, on sait quelque chose que les autres ne savent pas et on va le dire aux autres, en fait, on a une sorte d'ascendance sur la personne et on va avoir le pouvoir de révéler des choses. Et c'est comme si on avait une longueur d'avance. Ou...
Et du coup, c'est ça qui est un peu paradoxal, je trouve. C'est que souvent, on a tendance à dire que ceux qui possèdent la connaissance, c'est ceux qui possèdent le pouvoir, entre guillemets. Et en même temps, là, du coup, c'est... Enfin, c'est une sorte de connaissance feinte, c'est feindre de connaître quelque chose sur quelqu'un et en fait plutôt instrumentaliser certains faits qui sont pas forcément objectifs et qui sont aussi des faits un peu spéculés, des faits un peu amplifiés par notre jugement et le faire passer pour une vraie connaissance. Oui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait penser du coup à ce que Platon dit dans La République quand il distingue la doxa de l'épistémé. La doxa, pour lui, du coup, c'est l'opinion, tout simplement, l'opinion personnelle. Alors que l'épistémé, c'est la connaissance rationnelle. Et moi, je pense qu'on pourrait dire que le gossip relève plutôt de la doxa. Dans la mesure où, en fait, ça, justement, souvent, dans le gossip, il y a la circulation d'informations non vérifiées, qui sont souvent répétées, amplifiées. Et comme tu disais, il y a ce mouvement d'aller-retour entre la sphère publique et la sphère privée. On passe de la sphère publique pour ensuite se retrouver dans la sphère privée et porter des jugements collectivement sur certains comportements. Et on ressort dans la sphère publique. Et après, on va peut-être se retrouver dans d'autres cercles privés et retransmettre ces informations-là. Et donc, il y a une sorte de... C'est un peu une sorte de rumeur qui se propage. En fait, ça fonctionne un peu de pair. Je trouve que ça va un peu de pair avec la rumeur, quoi.
C'est intéressant. En plus, la rumeur, il y a deux sens. Enfin, à ce mot, du coup, le ragot, le truc comme ça. Mais c'est aussi juste un bruit qui se propage de plus en plus et qui devient incontrôlé.
Et du coup, des fois, qui devient aussi un peu inaudible. Parce qu'au final, tout le monde rajoute son opinion et tout le monde rajoute son point de vue. Et puis des fois aussi, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais on a parfois tendance à modifier l'histoire pour la rendre un petit peu plus intéressante, un petit peu plus surprenante. Parfois, pour susciter de la réaction aussi chez les autres. Et donc, ça a tendance à distordre complètement la réalité. Et j'ai l'impression que c'est l'effet du gossip.
Ouais, en fait, on n'allait pas au salon de l'automobile. c'était un mensonge.
Ouais, non mais voilà, c'est exactement ça. Et je pense que du coup, on voit aussi la manière dont le gossip a pour objectif, généralement, tout simplement, de produire de la surprise et a une dimension très sensationnaliste. Dans plein de circonstances, pas toujours, mais en tout cas, peut avoir une dimension.
Je trouve que là aussi, on touche à l'intention en fait, de la personne qui est la source et qui présente les choses. Saint Thomas d'Aquin, dans la, la somme théologique qui parle du péché, parce que c'est le péché de, du gossip, il n'appelle pas ça comme ça bien sûr, parce que donc le commérage c'est un péché, c'est le péché de détraction. Et en fait il va dire que ce qui fait que c'est un péché et que c'est mal en soi, c'est qu'en fait ça procède, enfin ça vient d'une mauvaise intention de la personne. Et donc il fait un peu une typologie des formes de détraction, et il dit que du coup il y a soit imputer quelque chose de faux à quelqu'un, amplifier sa faute par rapport à quelque chose, dire qu'une mauvaise une bonne action a été faite dans une mauvaise intention, voilà. Et en fait, il dit que le mal vient de l'intention de la personne et de la manière de formuler le discours, et pas de l'information en soi. Là, on voit aussi que c'est le gossip est vraiment ancré dans le langage et dans l'interaction, en fait, dans le discours proprement parlé.
À mes yeux, la possibilité du mal est issue en fait de quelque chose dont vient le gossip, qui est la culture du secret. Tu parlais de la culture de l'aveu, et c'est un truc dont Foucault ne parle pas au final dans les livres que j'ai lus, tout du moins de l'histoire de la sexualité, dans lequel il développe cette notion de culture de l'aveu, qui est l'origine militaire de l'aveu et du secret, qui est que parce que à un moment donné dans les aristocraties, peut-être qu'il y a des secrets qui sont liés à des notions politiques, mais surtout dans le militaire, on doit savoir où se situe une armée, quelles sont ses dispositions, quels sont leurs nombres, est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils ne sont pas fatigués. Et donc à partir de là, on va trouver des gens et on va les torturer pour avoir des aveux. Ou tout du moins, on va trouver d'autres méthodes. Mais en général, c'est ce qui se passe. Et donc la possibilité du mal vient de, pas seulement la culture de l'aveu, mais la culture du secret et donc la culture du privé. Ça nous fait quand même poser la question d'à quel point, et j'en reviens au langage et à la conversation, à quel point c'est pas même à quel point le gossip n'est pas le dispositif d'interaction relationnelle qui est le plus propre à nos sociétés et qui est d'ailleurs le plus généralisé. Parce que je ne vois très mal en fait des moments où on n'est pas en train de gossiper. La limite est très fine. Et quand je parlais tout à l'heure de conversation ou en parlant des prévisions météorologiques, c'est très rare qu'on n'en revienne pas très rapidement à une personne et à un secret sur une personne. On a toujours des secrets sur une personne, et c'est souvent ça qui nous alimente. Mais c'est ça qui aussi nous permet de faire société et qui permet de nous placer dans la société, d'être placé dans la société, puisqu'il y a un doux mouvement. On place quelqu'un comme on se fait placer. Et cette notion de valeur et cette notion de mal qu'on peut attribuer à quelqu'un ou qu'on peut se voir attribuer parce que d'un coup on devient mauvais en disant que quelqu'un est quelqu'un participe à cette culture du placement social. Et c'est toujours un jeu d'échiquier social qui est en jeu à travers le gossip.
D'ailleurs, on peut se demander aussi si avec les réseaux sociaux, il n'y a pas une amplification de ces mouvements-là, je trouve, et de cette dynamique de gossipage. Parce qu'en fait, il y a vraiment de plus en plus une sorte de floutage entre la sphère privée et la sphère publique, qui fait que de plus en plus ce qui est privé en fait devient public, ou en tout cas accessible au plus grand nombre. Et donc c'est très intéressant aussi de voir la manière dont on pourrait se demander même si les réseaux sociaux ne se fondent pas autour de ces dynamiques là cette volonté en fait d'alimenter les sujets de gossip et d'alimenter en fait cet accès aux autres, à la vie privée des autres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est une question assez intéressante aussi.
Je pense que là, ça nous amène un peu à réfléchir au contenu du gossip, ce sur quoi on va gossip, parce que les réseaux sociaux, en général, c'est un type de contenu, un type d'information sur notre vie privée qui est dévoilée. Enfin, par exemple, je sais pas, la vie de couple, la vie d'amis, les voyages qui pointent vers l'argent. Je pense que c'est ce genre de sujets qui reviennent. Par rapport aux réseaux sociaux, je sais pas si... Enfin, c'est intéressant de réfléchir à comment ça influence le gossip, parce que en même temps, tout est déjà montré. Donc, si tout est déjà rendu privé, je sais pas si on peut vraiment gossip sur des choses qui sont en soi déjà à la vue de tous.
Moi, à mes yeux...
On peut interpréter ce qui est présenté. Moi, ça me fait penser, par exemple, à ces personnalités de télé-réalité qui postent tout le temps leurs enfants sur les réseaux sociaux et qui, en fait, ont plus du tout de... J'ai l'impression qu'il n'y a plus toute séparation en fait, entre leur vie privée et la sphère publique. Parce qu'en fait, leur vie privée, c'est, grâce à leur vie privée en fait, qu'ils construisent leur personnage public. Et j'ai l'impression qu'en fait, si, il y a quand même plein de choses à dire dessus, au final. Et ça, pour moi, c'est un sujet, ça a déjà été un sujet de gossip, par exemple, de dire, mais en fait, c'est complètement aberrant d'exploiter ses enfants pour faire de l'argent et se créer une sorte de, ouais, de personnalité publique, de enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, entretenir une forme de célébrité, ça reste un sujet parce que, malgré tout, on a aussi conscience, je pense, que ce qu'on montre, en fait, du privé sur les réseaux sociaux, c'est qu'une partie du privé et c'est que c'est aussi un choix, en fait. On va choisir ce qu'on montre de nous et du coup, c'est peut-être même encore plus sujet à gossip.
Il reste toute la partie qui est cachée à
exactement. Et du coup, en fait, ça laisse beaucoup de place au mystère aussi, finalement. On se dit, il y a beaucoup de spéculation derrière. Ouais, en fait, ils montrent leurs enfants à Dubaï, ils font ci, ça, ça, mais en fait, à côté, je sais pas, genre, ils arnaquent leurs abonnés en leur vendant des choses. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, ils détournent de l'argent. Enfin, on peut inventer plein de choses, en fait, sur ces personnes-là.
Mais pour moi, par exemple, par rapport aux stars, le gossip fait partie d'une stratégie de destruction de la célébrité. Il y a une volonté de destruction de la valeur de la célébrité. Parce que pourquoi la célébrité, comme on avait parlé dans notre dernier podcast sur la créature, pourquoi la célébrité est célébrité ? Par cette notion de secret, par cette notion de, à un moment donné, elle est devant tous les phares, tout le monde la regarde, elle devient la chose attisée et qui en plus est construite dans une politique du montrer qui est très restreinte, puisqu'elle ne peut pas tout montrer justement si elle veut être idolâtrée. Et à partir de là, le gossip, c'est des gens qui vont combattre cette dynamique, combattre le récit, voulant être imposé par les maisons de disques, par la personne elle-même, par des conseillers en communication. Parce qu'à un moment donné, des personnes que la Dolce Vita a fait, maintenant qu'on les appelle les paparazzi, vont sortir leur téléobjectif, aller prendre en photo Angelina Jolie sur sa plage privée, et ils vont voir avec qui elle traîne, et d'un coup, on peut gossip, regarde, elle est comme nous, elle fait aussi des erreurs. Et donc, il y a une volonté de destruction, il y a une volonté de se rapporter en mode, regarde, moi, je n'ai pas la valeur symbolique et sociale qu'on attribue à Angelina Jolie, mais regarde, elle est, alors que vous lui donniez tout, alors que vous étiez tous en mode, ah là là, elle est géniale, etc., regarde, finalement, elle est pas, on n'est pas tous pareils, on n'est pas... Et c'est se replacer, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a du placement, mais là c'est se replacer. Et pour moi, il y a un combat contre à la fois la notion de secret et contre justement les entreprises du secret dont font partie le star system.
Ouais. Et du coup, bah, en fait, ça nous pousse à vraiment nous interroger autour de cette fonction du gossip, quoi, en général, et de se dire, oui, il y a une dimension coercitive, il y a aussi du coup une dimension qu'on pourrait percevoir comme plus négative, qui a pour but de renforcer les rapports de domination. Et moi, je me demande aussi s'il n'y a pas quand même une dimension régulatrice du gossip. Parce qu'on disait qu'en fait, le gossip est partout dans la société et qu'on fait un peu société grâce à ça, autour de ça. Et en fait, on pourrait se demander si ça n'a pas aussi la capacité, du coup, justement, en essayant de renforcer des dynamiques de domination qui sont en fait propres à la société dans laquelle on vit, s'il n'y a pas aussi la fonction, en fait, ça n'a pas la fonction de renforcer certaines normes aussi. Et certains jugements de valeur qui sont généralisés, systématisés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, par exemple, certains stéréotypes qui sont colportés sur certaines classes sociales, sur des personnes, par exemple, racisées, ou ce genre de choses. Parce que, le gossip, même s'il touche au privé, il révèle souvent aussi beaucoup, en fait, au sujet de la manière dont dont on perçoit le monde, ça révèle beaucoup d'opinions personnelles qui sont souvent empreintes de normativité. Et ça me fait penser à ce que Foucault dit, justement, dont parlait tout à l'heure, dans la capacité, en fait, de certains discours à renforcer certaines... Donc, des discours qui sont généralement interpersonnels, à renforcer, en fait, des narratifs qui sont beaucoup plus globales et qui sont propres à une société. Et du coup, il y a aussi peut-être dans le gossip, ça permet de voir en quoi les individus sont un peu les acteurs aussi du renforcement des normes et du maintien de certaines dynamiques dominantes dans la société. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pour moi, du coup, il y a discours et contre-discours, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les deux. Il y a à la fois des gens pour qui le gossip va servir justement d'un combat contre le star system, d'un combat, je dirais que par rapport à Emmanuel Macron, on peut prendre la chose très simple de Macron est gay. Alors, ça a peut-être quand même une essence un peu homophobe sur les bords, mais il y a cette notion de regarder, je peux détenir une information sur le chef de l'État, je peux avoir ce pouvoir-là. Et donc, il y a un combat contre un pouvoir qui est détenu. Là où, pour autant, je vais plutôt dire l'inverse, je dirais que le pouvoir... presque, il n'a pas besoin de faire de gossip, au fond. Je dirais que peut-être que l'État, au fond, comme on a sorti il n'y a pas longtemps des informations, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, je ne veux pas qu'on se plaigne de procès, mais sur Emmanuel Macron qui aurait dit des propos racistes dans son bureau avec ses conseillers, là, il y a peut-être un principe de gossip, mais parce qu'il sait très bien que d'un coup, il y a un autre pouvoir qui va l'attraper. Ouais. Mais donc le pouvoir, j'aurais tendance à dire, dans ces cas-là, n'a pas tant besoin de se cacher pour faire structure et continuation de la structure.
Et en même temps, dans ce gossip justement au sujet d'Emmanuel Macron, comme tu le dis, il y a une sorte de fond d'homophobie qui n'est pas entièrement avouée. Et je pense que à la fois, quand on dit, enfin toutes les personnes qui vont dire, pas toutes, mais beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, Emmanuel Macron est gay », vont l'affirmer, ce sera à la fois « Ah, je possède un savoir, quelque chose, un secret au sujet du chef de l'État », mais c'est aussi, ça renforce aussi du coup une certaine dynamique tacite, homophobe, et tous les stéréotypes aussi autour de l'homosexualité qui sont que les homosexuels se cachent. Bon, déjà, ils se cachent, je veux dire, historiquement, il y a beaucoup d'homosexuels qui devaient se cacher parce que c'était pendant très longtemps pas légal et très dangereux en fait d'être homosexuel. Mais il y a aussi un truc maintenant, je pense qu'il y a pas mal de stéréotypes autour de l'homosexualité qui sont que c'est des sphères un peu, que les homosexuels se cachent, que dans les sphères de pouvoir il y a beaucoup d'homosexuels et qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas, il y a pas mal de rumeurs qui circulent autour de ça.
Maintenant, on sait qu'il y en a beaucoup, hein.
Mais... Et bien sûr, mais parce qu'il y a des homosexuels partout dans la société, parce que voilà,
dans les campagnes,
parce qu'ils existent, quoi. Mais il y a pas mal de stéréotypes là-dessus, en mode un peu comme certains stéréotypes antisémites, quoi. Genre les juifs détiennent l'argent, sont au pouvoir.
Se cachent dans les grottes comme les homosexuels.
Non, mais voilà, du coup, en fait, c'est intéressant de voir aussi l'ambivalence du gossip et la manière dont ça peut colporter plein d'informations différentes. Enfin, une information peut colporter plein de dynamiques de domination, de pouvoir, parfois même contradictoires dans certaines mesures. Et parfois, quand on croit affirmer quelque chose et détenir un certain pouvoir ou affirmer un gossip juste dans, quand on pense qu'on a une intention un peu simple, juste de détenir une information de réaffirmer une sorte de pouvoir de domination sur le chef de l'État, dans certaines mesures, en possédant un secret sur lui, bah, en fait, on renforce aussi d'autres dynamiques dont on n'a pas forcément conscience, vous voyez ce que je veux dire,
enfin, oui. Ça porte souvent sur des thèmes, des thématiques qui sont rendues honteuses un peu, ça, ou encore les spéculations sur la transidentité de Brigitte Macron.
Oui, voilà.
C'est que des choses comme ça, en fait.
Et ça, pour le coup, c'est évidemment très transphobe.
Je voulais dire ça, pour le coup, c'est vrai.
Mais ça me fait penser... tu parlais de dynamique de domination, ça me fait penser aussi au slut-shaming. Souvent, on va parler du body count, du nombre de partenaires sexuels qu'une femme a eu. Et souvent, ça porte sur les femmes, en fait, ça porte pas sur les hommes. Et oui, même si on en parle de façon légère, parce que c'est des personnes qu'on connaît, en fait, ça renforce l'idée qu'une femme ne devrait pas avoir plusieurs partenaires sexuels.
Et donc, ça renforce aussi, on pourrait se dire, l'exclusion de certaines personnes, la marginalisation.
Oui, parce
qu'il
y a forcément un jugement de valeur, on va dire, regarde ce qui est fait.
C'est ça.
Moi, je dirais que le mouvement qu'il y a sur les femmes, surtout, c'est un mouvement continuel de privé-public. C'est-à-dire qu'on va te forcer à avoir un privé. Pour autant, on va t'empêcher d'avoir un privé parce qu'on veut absolument que tu révèles ton privé pour savoir s'il mérite d'avoir le droit d'être réellement privé. Par exemple, le body count, c'est ça. C'est que si tu me dis que ton body count, il n'est pas haut, c'est bravo, tu m'as révélé ton privé. Maintenant, tu as le droit de le garder privé maintenant parce qu'il est vertueux en tant que privé.
Et donc, on voit au final que...
C'est un public privé.
Du coup, oui, que le public a une énorme influence et que...
c'est à peu près la même chose.
Oui, après, voilà, c'est le principe même d'être un être social... On se construit à travers la société, avec les autres, et on est sans arrêt influencé par toutes les dynamiques sociales, normatives qui existent à l'époque dans laquelle on évolue. Mais il y a quand même, on voit du coup que finalement le gossip, alors qu'on pensait dans un premier temps que c'était quelque chose de purement privé, et que c'était quelque chose en fait. Dans lequel un espace et une pratique dans laquelle les gens qui l'exercent sont assez libres et du coup révèlent leur opinion personnelle, en fait on voit qu'il y a des influences qui sont tacites et que du coup on n'est pas entièrement libre dans cette pratique du gossip, et peut-être même que ça révèle parfois certaines formes d'aliénation. Ça révèle probablement le fait que on est poussé à porter des jugements de valeur sur certains individus de manière... comment dire, je sais pas si c'est non intentionnel, mais Oui, enfin, on est manipulé parfois aussi dans nos manières de penser et de poser des opinions sur les choses.
Bah, Kierkegaard, il parle de ça justement, du fait que c'est, enfin, pas de l'aliénation, mais de la superficialité. Et en fait, il critique le potin et la presse en général. Et il dit que ça rend la communication publique superficielle et qu'en fait, souvent, il n'y a pas d'engagement personnel avec l'individu dont il est question, mais on va juste parler de lui de façon générale. Et donc, il y a une dilution de la vérité et une illusion de connaissance et d'implication. Mais en fait, c'est du discours, de la communication sans vraiment sans responsabilité et sans vraiment investissement de nous-mêmes. Et ouais, c'est des opinions et pas de la vraie connaissance. Enfin, je sais pas si on peut parler de connaissance dans ce cadre-là, mais voilà, en tout cas, ça engage une existence sur la superficialité, et juste la conformité à un mode de communication, le gossip, et à des normes sociales qui sont érigées comme des normes, quoi, à quoi on doit se conformer.
Et maintenant, vous allez écouter Rumor Has It de Adèle.
Your love anymore.
Vous venez d'écouter Rumor Has It de Adèle. Mais le gossip est-il mal ? C'est quoi la vertu du gossip ? Puisque ce gossip, donc en tant que discussion, et c'est bien ça son problème, j'ai l'impression, tombe juste dans un jugement de valeur encore répété, et souvent, le gossip n'aura presque dans tous les cas que des conséquences négatives, c'est-à-dire que quelqu'un va perdre son échelle sociale, va perdre des échelons. C'est très rare, je dirais qu'à la limite, dans la séduction sexuelle, il peut y avoir quelque chose où tu as le gossip de « cette personne est un étalon, tu vas y aller ». Mais à part ça, il y a très peu de moments, à part de très rares cas où tu dis « il vient d'acheter une entreprise et maintenant il est en train de monter et que tu vas aller voir », que ce gossip peut vraiment résulter en action. Et donc, à cette question de la vertu du gossip, c'est cette question de « faut-il gossiper ?» Puisqu'on pourrait faire autre chose. Si on dit que cette personne est ça, si on dit que Macron est dans notre coin, on est en mode « ah, moi je ferais ça pour Macron, tu sais que Macron il est comme ça, tu sais que Macron il est comme ça », est-ce que c'est pas un autre mouvement qu'on devrait engager par rapport à Macron ? Est-ce que c'est pas une action politique concrète ? Et à cette autre chose, c'est comment sortir du gossip ? Si jamais il ne faut pas gossiper, si jamais la vertu est négative, comment en sortir ? Ouais. Moi, je suis dans la position de dire que c'est positif. Moi, j'adore gossiper, je suis là pour le gossip. Desperate Housewives, super série. Pretty Little Liars, pas mal. Gossip Girl, ça s'essouffle. Mais sinon, on est sur quelque chose, puisqu'on n'a pas de pouvoir direct sur nos institutions. Et on pourrait en avoir si on se constituait, mais il faut réellement se constituer. À défaut, et durant la constitution, il faut profiter du gossip autant qu'on peut pour s'alimenter en information.
Du coup, en fait, dans une dimension purement utilitariste, on pourrait se demander, en effet, si le gossip a une utilité, en fait. Ou si, enfin, c'est un peu la question que tu poses, du coup. Dans faut-il gossiper, en fait, est-ce que... Enfin, s'il faut gossiper, ça veut dire qu'il y a quand même une utilité et un intérêt au gossip, quoi.
Je suis tombée sur une affiche de propagande du régime soviétique où il y avait une femme avec un foulard rouge classique avec un doigt sur la bouche et qui disait que le... Je vais peut-être écorcher la phrase anglaise. Gossiping borders on treason. C'est-à-dire que le gossip emmène à la trahison. Et déjà, on voit qu'il y a un potentiel perturbateur du gossip, que ce soit là, dans le régime soviétique, mais souvent en classe, enfin par exemple, on a tous, enfin en classe, ou juste dans des entreprises en général, parce que c'est vu comme une perte de temps, comme on l'a déjà dit.
Mais du coup, on voit un peu, le fait que ce soit une femme sur l'affiche, on voit qu'il y a quand même une dimension.
C'est souvent relié aux femmes.
Voilà, et on revient en fait à la définition du début du gossip où, de base, ça vient en fait de ces veillées et de ces interactions entre des femmes au coin du feu qui sont un petit peu marginales. Et du coup, on se dit, peut-être aussi que la dimension perturbatrice ou la menace que représente le gossip, elle est un peu liée à des questions de genre. Enfin, on pourrait se demander aussi si, pourquoi c'est souvent ça peut apparaître comme moralement répréhensible ou c'est souvent condamné. C'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose qui à l'origine est féminin et socialement, ce qui est féminin est assez dévalorisé. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que Simone de Beauvoir dit dans Le Deuxième Sexe, où elle dit en fait que les femmes, surtout à l'époque où elle écrit, donc en 1949. Et elle parle particulièrement des femmes bourgeoises, sont en fait reléguées à la sphère du privé et donc en fait sont généralement très isolées dans le foyer. Et elle parle pas directement du gossip, mais en tout cas, elle parle quand même du fait que les interactions entre les femmes et ces discussions entre femmes, ça permet de créer du lien et peut-être de sortir aussi un peu cet isolement. Et donc on pourrait étendre son propos en se disant c'est parce que en fait les femmes sont reliées à la sphère du privé. Et c'est précisément parce qu'elles sont enfermées en fait, dans le foyer qu'elles en viennent à gossiper. Parce que c'est finalement leur seul moyen peut-être de sortir aussi de la sphère du privé et d'accéder d'une certaine manière au public. Ouais. Parce qu'on disait qu'il y avait un mouvement d'aller-retour entre privé et public, peut-être aujourd'hui, peut-être plus. Mais en tout cas, c'est aussi, et je pense aussi à la pratique des salons qui datent du 17e, 18e, où en fait ces femmes se réunissaient dans des salons privés et juste tenaient des discussions, discutaient, elles faisaient des lectures des nouvelles productions littéraires et discutaient aussi du monde, quoi, mais en étant enfermées dans la sphère privée. Et en fait, on voit aussi que du coup, le gossip émerge de l'isolement, je pense, ouais. et du coup, en fait, de peut-être la manière dont ces femmes, notamment, étaient un peu coincées avec leurs idées, avec leurs opinions sur le monde et ne pouvaient pas forcément les partager ou les exercer, les mettre en pratique dans la sphère publique. Donc ça vient peut-être aussi de l'inaction. Et donc en fait, il y a une utilité purement, je sais pas, peut-être une utilité du coup sociale, mais c'est peut-être aussi un moyen de transcender sa condition parfois, en fait, ouais. De gossiper.
Moi, je vais dire que je pense que le mot a été attribué pour désigner des conversations entre femmes. Mais le mot, quand il a été inventé, a déjà eu une origine misogyne à l'origine, puisque en réalité, le gossip, tout à l'heure j'ai parlé du militaire, mais existe très, très puissamment dans la culture masculine. Mm-hmm. Il suffit de penser à comment une armée peut venir à se mutiner, tout simplement. Ouais. Tu commences à parler avec les autres congénères, de dire à quel point, dans des armées complètement masculines, par exemple les Romains qui changeaient d'empereur tous les 5 du mois, un principe du à quel point il est faible, à quel point en fait il n'est pas fait pour nous, à quel point lui en réalité il est meilleur. Et on vient colporter des fausses informations, parce qu'il y avait cette question de calomnie et de faire exprès de faire monter des fausses informations à plusieurs endroits, et, ou alors des vraies informations parfois. Mais il y a toujours ce principe, donc, et dans l'historiographie générale et dans l'écriture de l'histoire, telle qu'elle existe, et telle qu'elle existe dans l'Empire romain, où à chaque fois on dit de tel empereur, finalement il mangeait des bébés, finalement il a mis tout le monde à feu, finalement lui il couchait avec sa sœur et sa mère, et puis après sa sœur est devenue sa mère, et puis il a quand même couché avec. Et donc là-dedans, il y a ce principe justement du gossip et de toujours en faire plus, comme vous disiez auparavant, pour ça. Et, mais pour autant, je dirais aussi que le gossip, et tu l'as très bien fait remarquer, existait dans les salons pour l'isolation, et après il y a eu une autre fonction sociale, puisque quand on est arrivé à un système qui n'est plus royal, noble, ou encore peut-être des... il ne faut pas enlever, je pense, aux femmes de cette époque leur agentivité politique, dans le sens où elles servaient les intérêts politiques, que ce soit d'eux-mêmes ou des personnes à qui elles étaient affiliées. Mm-hmm. Il y a plus tard, après la royauté, encore plus avec cette espèce de grand changement qui a été apporté par la Révolution française ou les révolutions et prises de pouvoir napoléoniennes, avec d'un coup des femmes qui, quand elles tiennent des salons et qu'elles se mettent à avoir des potins ou à faire dire des potins à des personnes, c'est précisément dans des notions d'intelligence stratégique et d'intelligence politique.
Et du coup, on voit aussi, en fait, du coup, ça me refait penser encore une fois à la dimension, à la potentielle menace que représente le gossip. Et en fait, je pense que du coup, comme tu le dis, c'est très présent dans la culture masculine, mais c'est juste pas assumé. Et pourquoi ça a été autant rattaché au féminin? C'est sûrement parce que, justement, ces salons ont présenté une véritable menace publique, politique. Et je pense que quand on s'en est rendu compte, il y a eu une sorte de condamnation de la pratique du gossip, justement parce que, ça pourrait en tout cas être ça, parce que je pense que le gossip, du coup, puisqu'il rompt l'isolement, il permet aussi, en tout cas, il a en son sein, là on parle du gossip entre femmes notamment, il a la potentialité du dépassement, de la révolte, en fait de la rupture de l'isolement, et donc potentiellement du dépassement par les femmes de leurs propres conditions. Et donc, et en fait, puisque ça leur donnait la possibilité en fait d'exercer une certaine influence qu'elles n'étaient pas censées avoir à l'époque sur la sphère politique publique, c'est aussi en ça que ça présentait une menace, je pense. Enfin, ça apparaissait comme une menace.
C'est vrai que le gossip a un pouvoir de destruction et de mise en branle du discours officiel, et enfin des discours officiels en général. Et Hannah Arendt, dans la crise de la culture, a dit justement que le bavardage, les commérages, etc., sont dangereux parce qu'ils remplacent le vrai débat démocratique. Bon, elle le voit de façon mauvaise, j'imagine. Mais en fait, le débat démocratique, il est souvent pas inclusif, et souvent, il inclut pas toutes les strates, tous les groupes de la société. Donc, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Je pense pas. Et en fait, il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices féministes ou postcoloniaux, etc., qui ont justement valorisé le gossip parce que ça, c'est une forme alternative de discours et de savoir. C'est Gayatri Spivak dans Can the Subaltern Speak qui propose un cadre de pensée qui peut être intéressant pour penser le gossip. Et parce qu'il dit souvent que... Enfin, non, je ne sais plus si c'est elle ou il.
Yel.
Je ne sais pas, Yel, ouais. donc il y a certains discours qui sont marginalisés et considérés comme illégitimes, donc notamment le gossip. Cette forme de discours qui existe donc en dehors des institutions dominantes, elle peut être féconde pour créer des formes de résistance au discours officiel, pour développer des stratégies subalternes, donc de révolte par exemple. et aussi créer des savoirs qui sont situés, qui sont façonnés à partir de l'expérience des personnes, du mmh. vécu, de l'expérience du monde, et qui ne sont pas en fait, imposés par, par des connaissances qui sont imposées tout simplement.
Ouais, en effet. Mais du coup, moi je me dis, on pourrait prendre le contre-pied aussi de cette idée-là, dans le sens où le gossip a un pouvoir, porte en lui la capacité dépasser les dynamiques oppressives, etc., ou juste de déranger les normes établies. Mais à l'inverse, s'il est généralisé ou s'il est réapproprié par le pouvoir, si le discours même du gossip, donc, qui se fonde sur certaines opinions et sur une sorte de distorsion quand même de la réalité, ça peut devenir du coup aussi très dangereux. Et ça présente, je pense, des risques moraux et politiques. Ça me fait penser à un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, où aujourd'hui on accorde de moins en moins d'importance à
la vérité.
La vérité, enfin, en tout cas à la connaissance, pas dans le sens de la connaissance rationnelle, parce que la connaissance rationnelle en elle-même est souvent produite par des subjectivités, donc et pas forcément entièrement objective ou rationnelle, mais n'empêche qu'il y a quand même du coup, la revendication par plein de... notamment d'individus politiques, la revendication de leur opinion comme comme une vérité propre, comme des opinions, enfin comme des idées politiques.
Ça fait penser aux théories du complot, par exemple.
Ouais, complètement. Et donc en fait, j'ai l'impression que des fois, enfin que si le gossip est instrumentalisé dans les sphères publiques, justement, il devient un instrument un peu de distorsion, de la réalité à grande échelle, quoi. Donc ça devient dangereux.
Moi, je dirais que tu utilises le terme « on », j'aurais pas tendance à dire que la vérité perd de la puissance dans nos sociétés, j'aurais tendance à dire qu'on le remarque plus aujourd'hui, qu'en réalité, les acteurs de la société sont très rares à s'intéresser réellement à cette question de ce qui est vrai, ou alors à ne pas constituer notre culture... ça me fait bizarre de dire ça, mais notre culture de ville qui a tendance à écouter des discours médicaux, des discours sociologiques et à faire la part entre les deux, des discours biologiques et de les mêler avec des discours sociologiques et des discours historiques, et donc d'en faire quelque chose de multimodal, finalement c'est assez rare. Et la plupart du temps, moi je pense qu'on peut juste remarquer ça, aujourd'hui on voit surtout ça avec les élections de Trump et Elon Musk derrière qui tient des balances, mais quand on pense au fait que les horoscopes, la notion d'horoscope a existé très longtemps et a même plusieurs fois été mis en avant de manière assez étrange comme étant une forme de contre-pouvoir, alors que ça participait directement à une science qui n'a aucun fondement et donc peut-être même à une délébitation, une débilité, idiotisation de la classe qu'elle disait faire émerger ou qu'elle disait permettre à élever. On peut se demander à quel point en fait la vérité en tant que telle, c'est pas quelque chose qui de base intéresse peu de monde.
Complètement, mais c'est très intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Astrologie, de Liv Stromsky. Je sais pas si vous connaissez cette autrice, c'est une autrice de BD. Et donc c'est censé être un livre un petit peu amusant sur l'astrologie, mais en fait c'est très intéressant parce qu'elle finit son livre en parlant d'Adorno, donc petite référence philosophique, et elle explique, elle déploie, on va dire, parce que donc auparavant dans le livre en fait elle a fait des portraits psychologiques de chaque signe, mais après elle relativise un peu ce qu'elle dit en disant que c'est pas une science, une véritable science l'astrologie, et elle s'appuie sur le propos d'Adorno qui critique l'astrologie et qui notamment, pour lui, Adorno, c'est l'astrologie et l'adhésion des gens à l'astrologie, il est dû notamment au règne de l'incertitude, ou en tout cas à l'acceptation de plus en plus, enfin je ne sais pas si c'est de l'acceptation, mais en tout cas à la prise de conscience du fait que tout est assez incertain dans l'existence, que rien du coup n'est, en effet, qu'il n'y a pas forcément de vérité à proprement parler, et en fait c'est... L'astrologie, à la fois, c'est un moyen de pallier à cette incertitude et de se dire « Ah, si j'agis comme ça, c'est parce que je suis lion. » Et de se donner des raisons. Et en même temps, c'est rassurant parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut à l'astrologie. dans le sens où on prend ce qu'on a envie de prendre dans l'horoscope et donc il y a un vrai truc de, je pense que ça va, c'est pour ça que c'est assez relié au gossip aussi, parce que c'est pareil avec le gossip, on va prendre ce qu'on veut dans l'histoire et on va adhérer à ce qu'on veut.
C'est un jeu de langage et après ce qu'on, enfin la façon dont on adapte l'horoscope à nous, ça va après influencer aussi peut-être sur nos actions. Enfin encore une fois, le discours, le langage agit sur la réalité. Bah, c'est ce que Judith Butler dit dans Acceptable Speech, que le langage en fait il est performatif et que la façon dont on décrit le monde a une vraie incidence sur lui. Radiopium. Au micro, c'était Marianne Varel, Benjamin Clipper et moi-même, Anna Le Gourmet-Mez. Une émission produite par Radio Campus Paris, diffusée un dimanche sur 4 sur 93.9 FM. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de streaming, notamment Spotify et Deezer. Retrouvez-nous sur Instagram à opium-philosophie et envoyez-nous